Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « Je rentre à la maison de mon père ». Notre série s'appelle « Je rentre à la maison de mon père ». Ce sera le cas, tôt ou tard, pour tout un chacun d'entre nous. Nous arrivons à l'étude numéro 3. Chers amis, cette étude ne serait pas complète si nous ne parlions pas de la douleur. Ils sont nombreux, ceux qui interrogent comment un Dieu plein d'amour peut-il vraiment permettre la souffrance de nos bien-aimés. Autrefois, les chrétiens comprenaient que la souffrance peut être une bénédiction et qu'elle peut nous rapprocher de Dieu. Parmi les mystiques dans l'Église, un grand nombre d'entre eux ont choisi le chemin de la souffrance. Par exemple, Catherine Kuhlmann, elle a dit un jour, tôt ou tard, tous, on peut dire tous nos pieds, vraiment, doivent descendre, et combien c'est vrai, tous nos pieds doivent descendre à travers cette vallée de la tristesse, de la souffrance, de l'obscurité et des larmes. Le cœur qui n'a jamais connu l'affliction est rabougri. Et la nature qui était capable des plus hauts sommets et des profondeurs les plus basses est absolument inexploitée. Et la vie, elle ne peut jamais expérimenter les plus profonds accords de joie sans avoir aussi connu les profondeurs de la véritable affliction. Ce fut peu de temps après avoir dit cela, qu'elle tomba amoureuse, je parle de Catherine Kuhlmann, qu'elle est tombée amoureuse et qu'elle a épousé un homme, malheureusement, en dehors de la volonté de Dieu. Cette tragique erreur lui suscita bien des souffrances durant sa vie. Et c'est au travers du brisement de son cœur, lorsque finalement elle se sépara et divorça même, que le vase d'albâtre qu'était son cœur fut finalement brisé et qu'elle a pu reprendre et de répandre un torrent de guérison sur le monde de souffrance de toute l'humanité. Oui, des choses fabuleuses se sont produites quand les cœurs sont brisés. On compte ainsi l'histoire de la fameuse chanteuse suédoise réputée mondialement, Jenny Lind. Elle avait déjà chanté devant les plus grandes audiences d'Europe, mais quelque chose manquait à son chant. Elle ne chantait pas avec toute la vérité et avec toute la profondeur de son âme. Or, un homme, un jour, la remarqua et en conclut que ce dont elle avait besoin, c'était d'un cœur brisé. C'est une histoire vraie, mais on peut dire presque épouvantable dans un sens. Aussi décida-t-il de devenir l'homme qui briserait son cœur. Alors il a commencé à lui envoyer des roses et à la courtiser. Et il ne fallut pas très longtemps pour qu'elle devienne amoureuse. Et quand il avait finalement gagné son cœur, il a tout à coup, abruptement, mis fin à leur relation. ce qui, bien entendu, brisa son cœur, et elle était anéantie. Mais, quand elle se mit à chanter par la suite, il y avait une beaucoup plus grande profondeur de sentiments et de sincérité, ce qui toucha les cœurs de sa génération. Quand elle chantait l'amour, elle savait désormais ce que était vraiment l'amour. Quand elle chantait la solitude et les cœurs brisés, elle pouvait le faire par expérience, et ses auditeurs ont vu vraiment et ont compris la grande différence. C'est ainsi que la grandeur de Dieu, elle se révèle toujours au travers de nos souffrances et de nos brisements. Notre chant n'en devient que plus beau à partir d'un cœur brisé, et notre plus beau sermon, c'est celui que nous prêchons quand nous sommes sur un lit de souffrance, quand les autres voient Christ en nous lorsqu'ils nous rendent visite. Dans Philippiens, au chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul nous fait part de sa volonté et même de son désir à connaître la douleur et la souffrance. Il a dit « Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » L'apôtre Paul mentionne deux façons très particulières au travers desquelles il nous est fait le privilège d'expérimenter tout ce que Jésus traversa lors des dernières heures de sa passion, c'est-à-dire celles qui l'ont mené à sa mort. Nous avons parlé du fait de mourir, ce qui nous identifie avec lui dans sa mort. Mais je désire maintenant considérer cette autre manière, bien plus difficile encore, c'est de s'identifier à lui. Je veux parler de la souffrance. Ces jours tant redoutés de faiblesse, d'impuissance, de solitude, quand on se retrouve jour après jour sur un lit d'hôpital, souvent sans même recevoir la visite d'un seul visiteur. Quand les infirmières viennent dans la chambre, ce n'est que pour vous planter toujours davantage d'aiguilles dans le corps, ou pour vous réveiller, prendre votre température et votre pouls. Puis quand vous avez enfin besoin d'elles, il vous faut attendre et encore attendre. En vérité, il est épouvantable d'imaginer qu'on puisse devoir passer les derniers jours de sa vie à l'hôpital. C'est un lieu dangereux, croyez-le ou pas, pour les personnes qui sont âgées, dont le seuil de résistance est souvent bien inférieur à tout ce qu'on peut imaginer. On y trouve de nombreux virus et de nombreuses bactéries. Il leur est donc facile de contracter ces maladies-là. Et si elles en attrapent une, les personnes âgées peuvent carrément mourir d'une infection qui peut, on peut dire, n'avoir aucun lien avec la véritable maladie originelle. Par exemple, une personne est décédée d'une pneumonie, c'est authentique, après avoir été traité contre le cancer, dont on lui avait annoncé la rémission. Et elle venait juste d'être guérie du cancer, mais qu'elle devait passer par un ultime traitement de chimiothérapie sur les conseils de son docteur et de sa famille. Eh bien, Ce fut ce dernier traitement qui l'avait totalement affaibli et il n'y avait plus de résistance immunitaire. Ensuite, alors que son immunité était trop basse, elle contracta une pneumonie infectieuse et elle mourut. Voilà à quelle vitesse les choses peuvent se passer. Souvent, la douleur et la misère ne sont que prolongées avec des tentatives désespérées des dernières minutes qui s'avèrent de vrais supplices pour essayer de guérir le pauvre patient mourant et qui souffre. Habituellement, ces tentatives sont vaines et le patient meurt dans la souffrance, entouré d'une nouvelle équipe médicale qui n'a jamais vu auparavant et qui n'a pas le temps même de lui parler et de répondre à ses questions. Il peut donc s'agir de véritables jours d'agonie avec les tubes, les perfusions, les tentes à oxygène, les appareils respiratoires, les murmures au sujet de la mort et tout cela sans aucun égard de l'équipe médicale qui cherche à se détacher émotionnellement du mourant. Trop peu de médecins et d'infirmières s'arrêtent pour tenir les mains de ces hommes effrayés ou pour leur exprimer des mots de réconfort et des paroles spirituelles. Puis, selon les pays où vous habitez, si vous ne bénéficiez pas de la sécurité sociale, quelques-uns doivent payer un prix exorbitant. Certains perdent même toutes leurs économies pour quelques semaines de maladie à l'hôpital. Selon le périodique Time du 18 septembre 2000, le coût moyen d'un mort dans un hôpital est de 3500 euros par jour. Et cela, si un passage aux soins intensifs n'est pas requis, auquel cas s'ajoute encore la somme de 2000 euros. Il n'est donc pas étonnant que certaines, on peut dire certains, se trouvent et se tournent carrément vers l'euthanasie. Combien de personnes aujourd'hui se tournent malheureusement vers l'euthanasie et ils sont souvent encouragés à le faire, souvent par leur famille qui ne supporte plus de voir leur bien-aimé souffrir de la sorte, ou encore qui veulent persévérer mais au fond d'eux-mêmes, ils guettent des biens familiaux en vue d'un héritage éventuel s'ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Mais voyez-vous, je voudrais vous dire que l'euthanasie n'est pas du tout la réponse. Ça, croyez-le ou pas, c'est un gros péché et non pas le moindre, car c'est carrément un meurtre, même si vous ne le croyez pas. C'est du suicide également. Et tout cela est dangereux et va envoyer une âme en enfer. Une organisation de prêtres catholiques romains dénommée Priest for Life, prêtre pour la vie, nous informe qu'en Hollande, parmi les 130 000 personnes qui meurent chaque année, environ 2 000 sont tuées directement ou indirectement par leurs médecins. Et la moitié d'entre eux ne demandent même pas la mort. C'est écrit dans USA Today le 25 septembre 2000. Et c'est ainsi qu'une grande malédiction s'étend sur certains pays. il est tout aussi tragique que l'État de l'Oregon permet désormais aux docteurs d'administrer une dose fatale de médicaments. Je ne voudrais pas vivre où il est légal de me donner la mort. Je veux que ce soit Dieu qui décide le moment où mes jours sur la terre seront terminés. Le remède qui est prescrit pour ôter la douleur provoque souvent des hallucinations, un manque de coordination, un esprit embrumé et d'autres effets secondaires négatifs et néfastes. Très souvent, les patients les refusent à cause de leurs effets sur leur intellect. Nous voulons épargner la souffrance à nos bien-aimés, bien entendu, et nous voulons aussi échapper aux tourments et à l'agonie de la souffrance la plus absolue, à l'incapacité de respirer, tandis que le corps se remplit de fluides, provoquant encore davantage de gêne et de misère. J'ai lu quelque part que le fentanyl, ça s'appelle fentanyl, est un antalgique très puissant et qui soulage, mais qui n'embrume pas les pensées. Et la nature elle-même, elle nous aide, à sa manière bien entendu, quand nous mourons. Ainsi, l'un des signes que la mort approche, c'est souvent la perte radicale d'appétit. Ma mère en a fait l'expérience lors du dernier mois de sa vie. Chers amis, il est très important, et tout cela, d'être prêt pour mourir. Je le répète parce que c'est important. Il est donc très important que nous soyons prêts pour mourir. Les préparations les plus importantes à faire sont spirituelles. Cela est triste à dire, mais des millions de personnes meurent sans jamais préparer leur cœur à rencontrer Dieu. Jésus a mis en garde sur le risque de mourir sans y être préparé spirituellement. À cet effet, il a donné plusieurs paraboles sur deux hommes qui n'avaient pas pensé à mettre les choses en règle avant et avec Dieu, et cela surtout avant de quitter la terre. Il avertit donc combien les conséquences peuvent être catastrophiques. Tout d'abord, nous avons dans Saint-Luc, chapitre 12, versets 16 à 21, où Jésus parle de l'homme que Dieu avait béni par d'abondantes récoltes. C'était un homme avare, il ne lui venait jamais à l'idée de partager ses bénédictions avec les autres, jamais. Bien au contraire, il bâtissait des granges toujours plus grandes pour entreposer son blé. Il voulait s'assurer de grandes réserves pour sa retraite qui ne viendrait que dans un très lointain avenir, selon lui. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Il avait tout autour de lui des gens qui avait besoin d'une aide immédiate. Mais cet homme ne pensait que à lui-même. Il disait, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Il était semblable à beaucoup de personnes qui possèdent de grands comptes en banque, qui achètent des actions et des obligations, puis qui envisagent une retraite anticipée afin de voyager sur de luxueux paquebots, jouer au golf et faire partie de la jet set. Il se prépare pour l'avenir, mais uniquement pour l'avenir terrestre, mais pas du tout pour leur destinée éternelle. Or Jésus a donné l'avertissement suivant. Mais Dieu lui dit, « Insensé, car cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ?» Chers amis, tout ce que vous entreposez ici-bas sur terre sera un jour perdu. Vous ne garderez pendant l'éternité que ce que vous donnez aux autres. Je répète, vous ne garderez pendant l'éternité que ce que vous donnez aux autres. Tout ce que vous avez, vous ne pourrez jamais l'emporter dans votre coffin, dans votre der Sarg, sous terre. Voyez-vous, dans Saint Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31, nous voyons que Jésus parle d'une plus grande tragédie. Il y avait un autre homme riche et lui n'avait pas besoin d'engranger pour l'avenir, pas du tout, car il possédait déjà tout ce qu'il voulait. Il vivait une vie de plaisir et de grand luxe. Il mangeait, buvait et faisait la fête avec ses 5 frères et un grand nombre d'amis aussi riches que lui. Sa vie n'était qu'un grand tourbillon social de banquet. Il portait les plus beaux vêtements et il était si populaire que son carnet de rendez-vous était rempli d'invitations pour telle ou telle affaire. À l'entrée de son domaine, pourtant, là, il y avait un mendiant dont le nom était Lazare. Il était affligé d'une terrible maladie et il souffrait d'un grand nombre d'ulcères. Quelqu'un l'amenait devant ce portail tous les jours, et assis là, il mendiait. Tous le tenaient à distance, excepté les chiens qui léchèrent ses plaies. Voyez-vous, parfois les animaux ont plus de compassion que les humains. Puis il mourut et fut amené au ciel par les anges, et il fut déposé dans le sein d'Abraham, car c'était l'un de ses descendants. Il ne fut pas amené au ciel parce qu'il était pauvre et mendiant, non, mais parce qu'il possédait la foi d'Abraham. Avez-vous bien compris? Parce qu'il possédait la même foi que Abraham, c'est-à-dire celle qui lui fut imputée à justice. Quelque temps plus tard, voilà que l'homme riche mourut aussi, mais il ne se retrouva pas au ciel. Et Jésus dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il a pu voir de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'est écrié, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre terriblement dans cette flamme. » Mais Abraham lui rappela sa vie passée remplie d'égoïsme et de plaisirs mondains, sans aucune compassion et sans aucune miséricorde. Il avait alors fait ses choix et il était maintenant beaucoup trop tard. Il était impossible maintenant de passer du paradis à l'enfer pour l'aider, même s'il regrettait ses erreurs. Et puis cet homme riche se mit à s'inquiéter pour ses 5 frères et il dit: je te demande donc ceci, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu terrible de tourment. Mais Abraham répondit à nouveau qu'il était impossible aux morts d'avertir les vivants. Ils ont les écrits de Moïse, c'est-à-dire la Torah, et ils ont les écrits des prophètes, c'est-à-dire le Tanakh, qu'ils les écoutent, qu'ils obéissent à ce qu'il est écrit dans leur propre Bible. L'homme riche savait qu'il ne le ferait pas. Il savait qu'ils étaient tellement mondain qu'il faudrait un grand miracle pour les changer. Il continua donc et dit: non, père Abraham, la parole de Dieu ne suffit pas pour eux, mais si quelqu'un des morts va vers eux, alors là, ils se repentiront. Mais Abraham connaissait ses frères bien mieux que lui. Il rétorqua: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Et c'est ainsi, chers amis, que les enseignements de Jésus nous avertissent très sérieusement que le temps qui nous est donné pour préparer le bien-être de notre âme éternelle, cette âme éternelle, eh bien c'est maintenant, c'est ici-bas que nous sommes sur terre, que nous devons nous préparer. Et cela ne nous donne aucun espoir de faire sortir nos bien-aimés du purgatoire uniquement par la prière, comme cela a été parfois enseigné par des théologiens de l'Église. Voyez-vous, l'accent, il est mis sur le fait qu'il nous faut accepter le salut pendant que nous sommes en vie, c'est maintenant ou jamais. Votre âme est cette vie divine qui vous a été donnée par Dieu lui-même. Jésus a prévenu qu'il est possible à une personne de gagner le monde entier tout en perdant sa propre âme. Il posa aussi cette question: que donnera un homme en échange de son âme? Saint Matthieu, chapitre 16, verset 26. La sainte parole de Dieu attire notre attention sur le fait que nous devons nous soucier du salut de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme leur sauveur. Et le Saint-Esprit veut leur rendre témoignage. Et c'est ainsi que l'un des plus beaux ministères, et c'est celui d'aumôniers d'hôpital et des pasteurs qui rendent visite à des malades. Voyez-vous, nous pouvons, de cette manière, arracher des personnes aux flammes de l'enfer, et cela pendant les derniers instants de leur vie, en leur parlant de la grâce de Jésus qui sauve. Nous pouvons les aider à faire leurs premiers pas en direction des cieux. Chers auditeurs et chères auditrices, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors, s'il vous plaît, faites une pause à l'instant même et priez, s'il vous plaît, cette prière que je vous soumets pour vous guider. Cher Jésus, je suis un pécheur, je le reconnais. Tu connais tous mes péchés. Je suis désolé pour les péchés que j'ai commis. S'il te plaît, pardonne-moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as versé ton sang pour enlever tous mes péchés. S'il te plaît, enlève-les maintenant. Viens dans mon cœur. Je te donne ma vie, et que je vive ou que je meure, à partir de maintenant, je vivrai uniquement pour toi. Je te remercie de m'aimer et de t'écouter les prières que je fais dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, maintenant. Amen. Chers amis, comment pouvons-nous préparer à la mort? Voyez-vous, la mort est une transition vers l'inconnu. Or, nous avons souvent peur de l'inconnu. Il vous est impossible de vous imaginer mourant ou de vous représenter allongé dans la tombe. Vous en frissonnez presque, alors vous repoussez cette pensée loin de votre esprit. Cependant, voyez-vous, la mort est, hélas, inévitable. Nous nous dissimulons derrière l'espérance de l'enlèvement et derrière de forts enseignements de foi en ne faisant état que de ce qui est positif, craignant de jeter quelques pensées négatives à celui ou à celle qui est malade. Si nous mentionnons, par exemple, la possibilité ou la probabilité de leur mort, il en résulte ce que nous ne sommes pas préparés, spirituellement parlant, ni émotionnellement, ni physiquement, et surtout pas financièrement. Alors, assurez-vous que votre testament et vos dernières volontés sont bien à jour selon vos desseins. Et c'est à cause de notre réticence à faire les bons préparatifs que nous négligeons souvent même notre testament en y indiquant nos dernières volontés. Il se peut également que celui que nous avons établi est de loin dépassé. Les funérailles sont très chères aujourd'hui. Il est sage d'avoir une compagnie d'assurance qui couvre ces dépenses-là, de sorte que nos bien-aimés n'auront pas ce souci au moment du deuil, car il est difficile de savoir que faire dans un tel moment. Voyez-vous, quand on souffre, il est difficile de bien penser. Souvent, par insouciance, nous laissons ce fardeau à nos bien-aimés alors qu'une petite assurance vie pourrait leur ôter ce poids. Des femmes se retrouvent parfois avec les dettes de leur mari. Elles ne peuvent alors pas payer leurs funérailles ni prendre soin des enfants, et il arrive souvent qu'elles perdent leur maison. Combien sont sans aucune profession et dans l'incapacité de gagner leur vie. Et comme conséquence, elles sont souvent sans abri. Oui, mourir subitement, cela peut avoir des conséquences terribles et inutiles. D'autres alors souffriront par notre faute. Sans dernière volonté, vos possessions et vos biens peuvent aller au gouvernement ou à des membres de votre famille sans scrupule, ou encore à votre compagnie ou même à une église. Il y aura toujours des avocats qui sont prêts à défendre la personne méchante et corrompue uniquement par amour de l'argent. Tandis que vos désirs manifestés d'avance, surtout par écrit, seront respectés et seront mis en œuvre bien plus facilement que si vous n'aviez pas fait ce testament. Ce qui est le plus tragique, c'est quand les enfants deviennent orphelins. Il est donc bien que le parent qui sait que cela risque de se produire, que celui-ci indique par écrit, si possible par acte notarié, les personnes qu'il désire voir élever leur ou leurs enfants, de sorte qu'il n'y ait pas de guerre entre membres de la famille. Assurez-vous surtout que vos bien-aimés savent où se trouvent tous les papiers importants. Essayez de garder tous les documents relatifs aux finances, les certificats de naissance et les polices d'assurance ensemble dans un lieu sûr auquel ils ont accès. Laissez des instructions spécifiques à ceux qui sont concernés sur ce qui doit être fait au cas où vous décidez ou au départ d'un bien-aimé. Dans le cas d'une grave maladie incurable, si vous ne souhaitez pas être maintenu artificiellement en vie, si vous ne désirez pas de défibrillation, un défibrillateur du cœur, si vous ne désirez pas des ventilations artificielles, d'intubation par la trachée ou de massage cardiaque, etc., alors vous avez besoin de rédiger et de donner votre consentement, un consentement libre et bien entendu éclairé, de sorte que ces traitements ne seront pas retenus sans que qui que ce soit ne se sente coupable ou ne soit accusé de vous avoir même tué. Et ceci n'est pas de l'euthanasie, c'est simplement remettre sa vie entre les mains de Dieu. Je réalise bien sûr qu'il est plus facile de prendre cette décision pour vous-même plutôt qu'envers un bien-aimé que vous voyez mourir quand vous espérez que quelques assistances artificielles pourraient peut-être prolonger sa vie. Mais nous savons si peu de choses sur ce que les médecins appellent la mort clinique ou la mort du cerveau. Donner son consentement libre et éclairé n'est pas du tout illégal. Une fois que vous l'avez fait par écrit, donnez-en des photocopies à votre avocat, à votre notaire, à un bon ami et gardez-en une sur vous lors de vos déplacements. Assurez-vous que cela n'implique que vous dans le cas où vous ne pourriez plus exprimer vos propres souhaits. et ne rédigez pas de tels documents sans avoir mûrement réfléchi dans la prière. N'hésitez donc pas à consulter votre pasteur, votre médecin et votre famille. Et recevez-vous le droit, je veux dire par là, de vous réserver le droit de révoquer cette directive, et cela peut se faire à n'importe quel moment, soit verbalement, soit par écrit. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable à ceux qui souffrent de, on peut dire, de donner de consentement libre et éclairé, parce que ceux-ci sont incapables de quoi que ce soit et ne pourront pas émettre un avis sage dans certaines circonstances. Aussi, chers amis, très important, commencez surtout à distribuer vos trésors, et cela pendant que vous pouvez encore procurer de la joie à des frères et sœurs en Christ. Alors que nous vieillissons, il est temps de commencer à distribuer nos trésors, si on en a. En tout cas, nous devrions clarifier à qui nous souhaitons donner certaines choses. Voyez-vous, il est triste de voir certaines familles qui sont unies et qui s'aiment tellement, tout à coup se déchirer et se diviser sur de petites choses comme sur des tasses et des soucoupes à la mort de la grand-mère. La cupidité, voyez-vous, ça, c'est une chose terrible. Nous ne savons pas ce qui se trouve dans nos cœurs jusqu'à ce que nous commencions à convoiter quelque chose. Nous possédons bien souvent trop de choses, particulièrement en vieillissant, et nous avons des collections de ceci et de cela. Et aux yeux du ciel, voyez-vous, ce ne sont que des vieilleries et du bric-à-brac. Que le Seigneur nous aide et nous guide dans toutes ces difficultés qui sont souvent au-delà de nos possibilités. Amen. Chers amis, nous allons terminer cette étude par la prière. Prions. Seigneur, nous savons que à chaque minute, la mort peut nous surprendre sans que nous ayons le temps de faire notre paix avec Dieu. Et quel ne serait pas alors notre éternel désespoir? Ne différons donc pas de chercher dans la foi, dans une vive et inébranlable espérance en Jésus-Christ, rédempteur et sauveur de nos âmes, l'assurance de notre pardon et de la félicité des cieux. Et lorsque nous posséderons cette précieuse assurance, appliquons-nous à employer saintement et d'une manière utile pour nos âmes ou pour nos semblables, les moments dont se composera encore notre vie. Si nous jouissons de la santé et de la plénitude de nos facultés, travaillons avec courage à l'accomplissement de nos devoirs et qu'une sage activité remplisse tous nos instants. Si nous languissons sous le poids de la maladie et de la souffrance, employons encore ces instants à nous approcher du Seigneur et à nous préparer à paraître en jugement devant lui. Lorsque nous ne pouvons plus agir, nous pouvons prier encore. Et si nous ne pouvions plus prier, nous pourrions regarder en haut au Christ et qui est assis à la droite de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre et de sentir l'importance du devoir de ne perdre aucun des moments que tu nous permets de passer sur la terre, mais de les sanctifier par des pensées et par des œuvres de foi et de charité. Que l'instant où nous allons nous livrer au sommeil soit particulièrement solennel pour nous et que nous sachions implorer avec ferveur ta bénédiction. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et soyez bénis. Le Seigneur vous aime. Il nous aime. Oui, même quand nous sommes abattus, quand nous sommes parfois déprimés, il est là. Il nous tend la main. Et c'est à nous de la saisir. Et il veut nous donner sa joie. Il veut nous donner sa paix. Alors, je vous dis, vous qui avez écouté cette étude, allez en paix maintenant, car Dieu vous aime. Au revoir, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série.